avance et avec lui l'actualité culturelle que la Grande Table passe au peigne fin. À 13h30, l'architecte Philippe Ciambaretta viendra nous parler du MOCO, le musée d'art contemporain dont la ville de Montpellier vient de célébrer l'ouverture. Mais avant cela, nous allons parler de l'univers psychiatrique par l'intermédiaire d'un témoignage singulier. Claire Lemaine, ancienne interne en psychiatrie, publie un roman graphique, Le syndrome de l'imposteur, retranscrivant son expérience en unité pour malades difficiles, UMD. L'UMD accueille des patients souvent souffrant de troubles importants ou des patients médico-légaux déclarés pénalement irresponsables. Un album qui profite de l'expérience individuelle pour revisiter la psychiatrie, ses fondements théoriques et les représentations qui la traversent. Claire Lemaine est parmi nous aujourd'hui aux côtés du psychiatre Jérôme Pellerin, directeur médical du Centre René Capitan de Paris. Bienvenue à tous sur France Culture.
Grande table d'été, Maëlys Besserie.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Claire Lemaine, avant que l'on arrive dans le cœur du sujet, la psychiatrie, c'est d'abord une histoire de reconversion que la sortie de ce roman graphique, de cette bande dessinée.
Ouais, c'est ça. En fait, d'ailleurs, il sort un peu après ma reconversion, parce que je l'avais écrit quand j'étais interne, et je l'ai rangé dans mes cartons, et ensuite j'ai repris mon internat, et donc c'était il y a 3 ans que je l'avais écrit cette BD avant de me reconvertir.
Alors, Jérôme Pellerin, on a déjà vu moult représentations par la fiction de la psychiatrie, mais la bande dessinée, pas tellement, une bande dessinée plutôt humoristique.
Oui, plutôt humoristique. Pas tellement, un petit peu, il y a eu quelques psychiatres, je pense à Serge Tisseron qui a essayé de faire cohabiter évidemment la psychiatrie et la bande dessinée. Je crois même qu'il avait fait sa thèse. En bande dessinée. Mais en tout cas, le sujet que vous traitez, que vous abordez, alors lui, pour le coup, il est vraiment original.
Alors, ce qui est original, c'est cet UMD. Peut-être vous pouvez nous donner des détails particuliers. Ce n'est pas l'ensemble de l'univers psychiatrique que vous décrivez, même si vous passez par les études et surtout l'expérience de l'internat. Mais c'est aussi un univers particulier, celui de l'UMD. Claire Lemaine, expliquez-nous.
L'unité pour maladies difficiles, en fait, c'est une unité où vont les patients qui présentent un danger. Donc c'est soit des patients qui sont trop violents en unité habituelle, soit des patients qui ont fait un passage à l'acte grave du type agression et qui ont été irresponsabilisés pénalement. Ou il y a aussi des détenus condamnés qui sont dans cette unité. Donc c'est une unité qui est assez sécurisée. Il faut passer différents sas pour rentrer au contact des patients. On est toujours accompagné par des soignants. Enfin, il y a une ambiance un peu carcérale.
Alors il y a 3 pavillons que vous nous décrivez.
Oui, 4.
Enfin, il y a celui.
Ah non, il y en a 3, effectivement.
Il y en a 3.
C'est qu'en fait, comme c'est inspiré de là où j'étais, parfois je mélange la réalité, ce que j'ai mis dans mon livre, mais il y en a 3 dans la BD. Ouais.
Et donc, le premier univers dans lequel c'est un univers où on coupe du monde, on essaie de contenir. C'est ce que explique votre chef. Justement, vous avez pris un alter ego, Lucille, pour ce personnage de bande dessinée.
Oui, c'est mon deuxième prénom.
C'est votre deuxième prénom.
Je vais aller chercher très loin.
Et votre chef, elle vous fait visiter, et vous, c'est le passage de la théorie à la pratique.
Oui, c'est ça. Bah, j'ai un peu utilisé son personnage pour pouvoir aussi expliquer au lecteur l'univers dans lequel va être le personnage. Donc, elle me fait visiter les pavillons, et ça permet de comprendre comment est-ce qu'on traite les patients dans cette unité. Donc, effectivement, le premier pavillon, c'est un pavillon très austère, où il y a peu d'activité, les patients sont tous en uniforme, les tables sont fixées au sol, ils n'ont pas de fourchette, on coupe leur viande, ils n'ont pas de couteau, on coupe leur viande, on leur donne des fourchettes en plastique. Et donc c'est quelque chose où voilà, on doit un peu les couper de l'univers réel, le temps aussi souvent de que les médicaments puissent faire effet, qu'ils soient peut-être un peu moins délirants. Au bout de quelques mois, il y a une commission extérieure qui décide du passage dans une autre unité. Et donc dans le pavillon suivant, là, ils reprennent un peu plus de liberté, ils commencent l'ergothérapie, et ils retrouvent leurs vêtements, etc. Et le dernier pavillon, c'est celui qui les accompagne vers la sortie.
Alors ça, c'est du côté des patients. Mais du côté des internes, c'est aussi l'arrivée dans la réalité du monde psychiatrique, avec un rôle à endosser, celui du médecin. Claire Lemaine.
Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, c'est effectivement un peu brutal parce que c'est pas la plus classique des unités, l'UMD. Mais ce que j'expliquais dans ma BD aussi, c'est que c'était une façon de bien commencer à prendre ce rôle parce que c'est aussi l'occasion de voir des patients pendant très longtemps. Donc d'apprendre à faire des entretiens qui se construisent sur la durée parce qu'il n'y a pas beaucoup de stages sinon où on a l'occasion de suivre les mêmes patients pendant 6 mois et les voir au quotidien. Et Voilà.
Jérôme Pellerin, l'univers qui est décrit là, c'est un domaine particulier de la psychiatrie. Il en existe d'autres. Vous avez une longue expérience en psychiatrie institutionnelle dans des espaces plus ouverts. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, en tant que lecteur de cette bande dessinée, de cet univers qui a été retranscrit, qu'il y a aussi un lien entre le monde judiciaire et le monde psychiatrique?
Oui. Je pense que sur la question que Claire aborde, celle de finalement se retrouver avec des personnes qu'on peut voir pendant plusieurs mois, avec lesquelles on peut se mettre comme ça au travail, il y a effectivement une spécificité de cette prise en charge. Il y a une autre spécificité qui est bien sûr celle de ce que ces patients ne sont pas seulement là pour des raisons médicales, mais aussi la plupart du temps en raison d'un passage à l'acte. Et donc évidemment, ce qui va déterminer, si je puis dire, la possibilité de leur évolution, c'est aussi le juge. Alors, tout ça n'empêche pas, bien entendu, de faire de la psychiatrie, probablement même de faire de la bonne psychiatrie, à condition, bien sûr, que, d'une part, on puisse sans doute s'y mettre à plusieurs, c'est-à-dire réfléchir ensemble à toutes ces questions, à toutes ces problématiques que ces patients apportent, et puis aussi à condition, me semble-t-il, que on puisse s'articuler finalement avec les partenaires, les autres professionnels qui ont envoyé éventuellement ces patients.
Ça fait beaucoup d'institutionnels, ça, quand même. Ouais. Parce que ces deux institutions, justement, le corps médical, l'institution psychiatrique et l'institution judiciaire, qui se superposent avec des normes que vous questionnez, d'ailleurs, qui sont assez différentes, parfois incompatibles. Claire Lemaine, avec des conceptions très différentes, par exemple, des addictions, de l'alcool.
Oui, c'est ça. À un moment, je raconte ça dans la BD, que j'étais allée assister justement à une expertise psychiatrique au tribunal. Et en fait, y a un article qui permet de décider de l'irresponsabilité pénale. Et dedans, il faut que la personne ait il y ait une abolition totale du discernement, mais il y a aussi un petit appendice. Donc c'est pas une abolition, mais le discernement a été quand même un peu altéré. Donc ça suffit pas à avoir l'irresponsabilité pénale. Mais donc là, c'était le cas de cette personne qui était alcoolique. Donc du point de vue médical, c'est une addiction. Et l'expertise mettait en avant le fait que donc c'était quelqu'un qui avait eu beaucoup de carences pendant l'enfance, et donc ça avait probablement mené à ces addictions et cet alcoolisme. Donc on aurait plutôt tendance à penser que ce serait une circonstance atténuante, alors que dans la loi, là, comme il s'agissait d'une agression sexuelle, c'est une circonstance aggravante des agressions sexuelles d'avoir été alcoolisé. Donc là, c'était effectivement
une contradiction entre les...
Où les deux institutions se contredisaient sur le même sujet.
Alors, comme on est à la fois dans la réalité et dans la fiction, je vous propose d'écouter un extrait de Roi et Reine d'Arnaud Desplechin.
Bonjour, monsieur. C'est l'hôpital qui nous envoie.
Vous devez vous tromper parce que je ne suis pas malade.
C'est-à-dire que vous avez dû recevoir nos convocations?
Écoutez, non, je n'ai rien reçu. Je n'ouvre pas tellement mon courrier en ce moment. Et en plus, là, ça tombe mal parce que je suis vraiment très occupé.
Le psychiatre vous a envoyé 3 convocations. La dernière était un recommandé.
Et elle vous avertissait que nous allions devoir passer quand vous ne vous présentiez pas à l'hôpital.
Mais de toute façon, peu importe, puisque je me porte parfaitement bien, comme vous pouvez le constater. Bon, mais au revoir, messieurs.
Vous ne voulez pas venir avec nous? Vous refusez?
Effectivement, je refuse, oui.
Monsieur, ça fait des mois que les médecins vous ont envoyé la première convocation.
Mais je ne suis pas sourd, mais j'ai rien reçu.
Ah si, le recommandé, vous l'avez reçu.
Non, je n'irai pas dans votre hôpital de merde. Je ne suis pas malade et je suis très pris.
Monsieur, vous parlez fort.
Je ne parle pas fort, je parle normalement.
Si, si, vous criez.
Je crie si je veux, ok? C'est quand même incroyable, je suis ici chez moi, je dérange personne, je fais du bordel sous les fenêtres de personne, je chie sous les fenêtres de personne. Vous comprenez?
Mais qu'est-ce que vous venez m'emmerder avec vos allures de bouseux de la sécu?
Y a pas un policier avec vous? Vous êtes mandaté de rien, j'ai commis aucun délit.
Je devrais suivre deux connards d'infirmiers de la Stasi, mais vous êtes cinglé.
Monsieur, on ne vient pas vous enfermer, on veut juste vous emmener pour vous soigner.
Me soigner? Mais je vais très bien et je t'encule!
Vous savez la corde avec un nœud coulant qui est accroché dans le salon avec le tabouret en dessous?
Mais non, je ne suis pas suicidaire, d'accord? Bon,
C'est, je comprends, vous voyez la corde, la chaise, donc vous faites l'association, c'est humain, mais c'est, j'ai simplement besoin de savoir que je peux le faire, c'est juste une idée que j'ai besoin d'avoir, et du moment que je l'ai, je le ferai jamais. Je sais pas, il doit y avoir des choses comme ça dans Cicéron, ou Sénèque, ou les Stoïciens.
Mathieu Amalric, que l'on entendait donc dans Roi et Reine d'Arnaud Desplechin, on voit que le fou, évidemment, transporte avec lui tout un tas de représentations. L'épisode du suicidaire, ça fait écho aussi à votre album Claire Lemaine, puisque vous, c'est le début de vos entretiens en tant qu'interne. Vous allez être confronté à des questions à poser, vous allez omettre certaines questions, oublier de les poser.
Mais vous voulez dire pour l'épisode suicidaire?
Pour l'épisode suicidaire aussi dans l'album.
Oui, ça c'est plutôt vers la fin de l'album où effectivement c'était aussi un peu un choc d'interne en UMD, comme les patients sont très délirants au début, le fait de les traiter, c'est quand ils viennent pour des choses du type des passages à l'acte comme un infanticide, le fait que le délire tombe brusquement, ça peut complètement inverser la tendance, et quand la personne arrête de délirer et prend conscience de ce qu'elle a fait, ils peuvent effectivement devenir suicidaires. Et ensuite, il y a tout un protocole de surveillance pour éviter qu'ils se suicident, même si ça arrive parfois dans les murs des UMD.
Alors vous utilisez la bande dessinée qui a un médium grand public pour parler d'un domaine qu'on imagine être un domaine plutôt de spécialiste. Alors est-ce que c'était parce que de toute façon vous étiez une artiste visuelle et partie pour cette activité-là, ou parce que vous aviez l'impression que c'était le médium qui s'ajustait le mieux à ce que vous vouliez dire sur cette expérience de la psychiatrie en tant qu'interne?
C'est un peu des deux en fait. Moi c'est vraiment la bande dessinée, j'en fais depuis que je suis petite, et c'est la façon qui me convient le mieux pour raconter, d'allier le dessin, et ça permet de rajouter un peu d'humour et de mettre une certaine distance humoristique qui est bienvenue dans ce genre de sujet un peu grave. Et effectivement aussi, pour le coup, j'avais quand même envie que ce soit quelque chose, d'écrire quelque chose de grand public sur quelque chose de très inconnu. En psychiatrie, les choses se passent souvent en huis clos, en UMD encore plus. Donc c'était l'occasion d'utiliser vraiment un média à grand public pour parler à tout le monde, mettre de l'humour et que tout le monde puisse se sentir concerné par ce genre de problème.
Alors, Jérôme Pellerin, je ne sais pas ce que vous pensez de l'extrait de Mathieu Amalric avec sa corde qui l'attend mais qui est suffisante pour le rassurer.
Moi, je trouve que c'est du vécu, c'est absolument extraordinaire cette performance de Mathieu Amalric. Elle est bon. Peut-être que ça va un petit peu loin avec effectivement la corde et la chaise dans le séjour, mais pour le reste, je trouve que effectivement il y a là une mise en scène sensationnelle de ce que quelqu'un peut raconter au fond de l'ambiguïté de ses sentiments et de la difficile décision qui consiste à aller à l'hôpital, et puis aussi effectivement de la difficulté qu'il y a pour les infirmiers qui viennent chez lui, hein, ça peut arriver, et même d'ailleurs à l'intérieur de l'hôpital, c'est la même chose, hein, pour les infirmiers à dire bon bah écoutez, vous avez besoin de venir à l'hôpital, de vous faire soigner, il y a quelque chose là on peut pas vous laisser continuer à vivre tout seul. Donc effectivement, je trouve que cet extrait est absolument remarquable.
Alors des deux côtés, hein, la représentation du patient, mais la représentation du personnel médical qui n'est pas du tout épargné dans le syndrome de l'imposteur. Jérôme Pellerin, qu'est-ce que vous avez pensé justement de la manière dont on décrit les psychiatres, par exemple, qui accueillent les internes?
Oui, alors sur cette question-là, peut-être qu'effectivement, il faudrait se dire deux choses. La première, c'est que c'est jamais simple, surtout dans un lieu très très fermé, dans un lieu dans lequel on a l'habitude de vivre, on pourrait presque dire entre soi, et même avec les malades entre soi, c'est jamais très facile d'accueillir une personne nouvelle. Et je crois savoir en plus que finalement, vous étiez une fille, hein, dans un milieu d'hommes, donc ça a aussi probablement des effets particuliers. Au-delà de ça, je pense que l'inquiétude avec laquelle vous arrivez, elle est évidemment contagieuse, hein. Chacun y est pris, probablement aussi bien les patients eux-mêmes que les infirmiers, et même probablement que le psychiatre. Et au fond, c'est ce réglage-là que vous racontez. Ce moment où, effectivement, il faut se mettre à travailler ensemble Et pour les gens qui sont là déjà, être sous les yeux de quelqu'un qui arrive et qui a vocation d'une certaine façon à apprendre, enfin c'est une position qui n'est pas si simple.
Alors rapport homme-femme, rapport hiérarchique à l'intérieur de la structure, et vous nous tracez de manière très humoristique un portrait du psychiatre quinca, grand, qui accueille de manière assez paternaliste, avec un jeu de séduction à l'égard des internes qui est assez intéressant, Pierre Lemaine.
Oui, bah là, c'est un peu le cas de, comme c'est une grande institution, le cas du chef de service qui est aussi un peu politicien presque, où son métier, c'est aussi de faire en sorte que les différents corps de métier s'entendent bien, d'arrondir les angles, donc de flatter aussi les internes pour avoir une, probablement pour qu'ils se sentent bien, mais aussi pour que tout se passe bien, pour avoir une bonne évaluation, pour avoir d'autres internes et que les choses se passent au mieux.
Alors là, vous nous décrivez un jeu justement assez graphique, une manière de serrer la main, de regarder de manière intense dans les yeux, 1, 2, 3 secondes.
Ouais, c'est ça. Oui, c'est une manière de, enfin, c'est surtout pour ramener de l'humour, mais je sais pas si c'est vraiment conscient, les personnes qui font ça, mais c'est une manière aussi un peu d'impressionner et de rappeler la hiérarchie entre les personnes aussi.
Alors, d'autant plus que, il faut quand même expliquer ce titre du syndrome de l'imposteur, votre alter ego, Lucille, souffre d'un problème de manque de légitimité. Elle se sent, en tout cas, dans un sentiment d'illégitimité par rapport à ce rôle de psychiatre qu'elle doit endosser.
C'est ça, ouais, c'est la sensation de pas être à sa place, d'avoir un peu volé sa place, et c'est un sentiment qui est exacerbé dans ce genre de moment charnière, qui est par exemple le premier jour de l'internat, où avant c'était toute la théorie, et d'un coup il faut vraiment faire ce qu'on a appris, jouer un rôle, et on a quelques images, enfin on a des images en tête de ce que doit être le psychiatre, comment il doit se comporter, on prend des exemples de ce qu'on a vu faire, du coup forcément on répète des choses qu'on a vues, donc c'est comme si on jouait un rôle, et après je pense que ça s'améliore avec le temps, mais c'est particulièrement exacerbé dans les moments nouveaux, donc voilà, le début de l'internat, les premières gardes, et c'est pas quelque chose qui est spécifique évidemment à la médecine ni à la psychiatrie, mais quelque chose que tout le monde peut ressentir à un moment donné de sa vie. Et encore
mais est-ce
plus,
que c'est typique à tous les médecins, Jérôme Pellerin, est-ce que ça vous a paru familier, cette notion de syndrome de l'imposteur qui est pas tout à fait répertoriée dans les textes, je pense, théoriques?
Oui, moi je connais évidemment pas tous les médecins, j'ai l'impression quand même qu'un certain nombre d'entre eux traversent cette expérience. On pourrait d'ailleurs dire que c'est aussi une expérience qui est assez positive, parce que finalement...
C'est sain, non?
Oui, bien sûr, c'est très sain. Arriver quelque part et se dire, voyons, qu'est-ce que j'ai à observer là? Qu'est-ce que je pourrais bien faire de moi? Comment est-ce que je pourrais me débrouiller avec tout ça? Et puis, qu'est-ce que je pourrais faire aussi des postures, justement, de tous les autres, hein? C'est assez rigolo, d'ailleurs, de voir que finalement, effectivement, il y a ce médecin-là, ce chef de service qui est dans cette position de posture. Mais au-delà des médecins, c'est vrai que moi, je dois dire qu'il m'arrive de voir, par exemple, bon, je pense que c'est le cas, en fait, de beaucoup de gens qui ont fait des études longues.
Oui, c'est ça.
Il y a un espèce de truc où... quand on se retrouve dans le métier, je pense aux avocats aussi, ou je pense, bon, je sais pas, des gens qui ont des études universitaires longues, quand on se retrouve dans le métier, il y a un truc qui dit tout ça pour ça. Comment est-ce que je vais organiser, si je puis dire, tout ce que j'ai appris? Comment est-ce que je vais pouvoir continuer à le faire rentrer de force, d'une certaine façon, dans le métier que je vais
avoir à exercer? Dans la pratique.
Voilà, dans la pratique. Alors que, bon. Ouais. Les gens qui pratiquent disent, bah quoi, non, c'est pas, il n'y a pas besoin de tout ça, hein, c'est plus simple.
Il y a le côté tout ça pour ça, il y a aussi le côté tout ce que j'ai encore à apprendre, alors que finalement,
oui.
On a un peu cette sensation quand les études sont longues, on a passé un nombre incalculable d'examens, et à moins d'avoir eu 20 sur 20 à tous les examens, il y a forcément des choses sur lesquelles on a fait l'impasse, et on se fait une montagne de ces choses qu'on devrait savoir et qu'on ne sait pas.
Et alors ça dépend un peu de son profil, parce que vous nous faites une typologie de l'étude des étudiants en médecine assez fantastique au début de cette bande dessinée. Alors il y a le littéraire frustré, il y a le plaisantin, il y a l'excentrique, il y a le patient. Il y a le patient qui se cache parmi les psychiatres, il y a la sauveuse, l'ex-futur chirurgien dépressif, il y en a 13, je ne vais pas tous les citer, mais il y a justement ces questions-là qui traversent aussi le secteur, puisque les psychiatres ne s'estiment pas comme des médecins comme les autres, c'est ce que vous nous expliquez.
Oui, bah, pour la plupart des psychiatres, oui, il y a un peu, en tout cas quand j'ai commencé mon internat, il y a, même au niveau des internes, on est... C'est vrai que c'est pas très uniforme aussi les profils des internes, c'est ce que j'essaie de montrer par rapport au reste des étudiants en médecine. Et il y a un peu une fierté d'être un peu singulier, d'être peut-être un peu plus intellectuel, de souvent d'être dans une spécialité plus transversale, ouvert à plus de choses. Ensuite, il y a d'autres. Enfin, j'ai aussi fait des semestres dans des services plus hospitalo-universitaires où là, c'est un peu la tendance inverse où j'avais des chefs d'unité qui nous disaient on est avant tout des médecins, on est des médecins comme les autres. Et d'ailleurs, c'est des services dans lesquels on remet la blouse blanche que normalement on ne porte plus habituellement dans les services de secteur. On refait la visite qu'on ne fait pas habituellement, où c'est la visite comme si on fait tout, en fait, tout comme si la psychiatrie n'avait rien de spécifique et que c'était pas plus gênant de rentrer dans une pièce à 50 et de questionner une personne sur ses symptômes. Sur son viol, parce que finalement c'est juste un symptôme, donc on peut le faire de la même façon que si on parlait de son appendicite, quoi. Donc ça dépend des types de psychiatres.
Mais alors vous, ce que vous décrivez, Jérôme Pellerin, je ne sais pas ce que vous pensez de tout cela, mais dans la représentation de psychiatres qui seraient les intellectuels parmi les médecins, parce qu'il y a tout ce volet théorique qu'ils sont censés maîtriser, et parce qu'il y a aussi finalement un intérêt pour l'âme, c'est comme ça que c'est décrit dans l'album de Claire Lemaine.
Oui, moi je trouve que Claire a raison de raconter qu'il y a effectivement plusieurs manières de faire la psychiatrie et qu'on pourrait presque dire qu'il y a aujourd'hui des psychiatres à l'hôpital, en tout cas qui sont vraiment dans la position de s'identifier le plus possible à un discours scientifique, avec effectivement tous les attributs que ça comporte. Et puis il y a de l'autre côté...
La question de la prescription, vous voulez dire?
Alors, avec la question de la prescription, bien sûr, par exemple, effectivement, moi, je suis frappé de voir que, selon les interlocuteurs, par exemple, quand on parle avec un patient, de temps en temps, il y a des psychiatres qui ne s'intéressent qu'au traitement qu'il a reçu. Tandis que d'autres, au contraire, s'intéressent plutôt à quand même, même pas qu'est-ce que ça lui a fait, mais qui il est maintenant, comment il se débrouille, qu'est-ce qu'il fait un peu de tout ça, et au fond, est-ce que... Une hospitalisation, par exemple, a pu être utile ou pas utile. Enfin bref, il y a effectivement, je pense, des positions extrêmement différentes dans les psychiatres. Mais ce qui est sûr, c'est que la psychiatrie est quand même, à un moment donné, enfin au moment où on aborde, et je crois que c'est un peu ça le sujet aussi de votre bande dessinée, au moment où on aborde le métier, je crois qu'il y a un truc avec lequel il faut renouer, qui est celui d'une forme, je dirais, un peu d'humanité brute, c'est-à-dire d'empathie qui commence par dire je voudrais essayer de comprendre avec vous. Hein, je voudrais essayer de... D'ailleurs, si on commence à dire à quelqu'un « je sais ce que vous avez », il n'a plus envie de nous parler. Donc en fait...
Alors ça, c'est la question délicate des entretiens. Et de manière plus vaste, on peut l'élargir au lien aussi entre psychiatrie et psychanalyse. Je vous propose d'écouter Jean Houry sur le sujet. C'était sur France Culture en 1990.
Pour moi, en fin de compte, il n'y a pas de psychiatrie. Enfin, la psychiatrie sans psychanalyse, c'est comme si on voulait parler d'un coureur à pied sans jambes, hein, ou comme ça. En fin de compte, c'est inséparable, c'est intégré. Hein. D'ailleurs, en fin de compte, toute la démarche de Freud, alors il faudrait reprendre les citations précises, mais il disait que la psychanalyse, de tout ce qu'il essayait d'élaborer, comme ça, qui restait en chantier. Il était très modeste, Freud. Hein. Il disait que ce n'est qu'une introduction, il disait comme ça, à une psychiatrie scientifique. C'est Freud qui disait ça. Il posait donc la psychanalyse comme, non pas comme la base, mais comme une introduction, comme ça, comme quelque chose qui s'intègre forcément. Alors, c'est pour ça que ça m'a toujours choqué de dire quels sont les rapports entre la psychanalyse et la psychiatrie. Ben, je dis, il n'y en a pas. Hein. C'est la même chose. Mais ça veut pas dire que la psychiatrie se résume à la psychanalyse. Parce que la psychiatrie, c'est, comme dit Tosquelles, qui reprend une expression en fin de compte traditionnelle de Kretschmer, c'est multidimensionnel.
Jérôme Pellerin, ça mérite quelques explications.
Oui, magnifique Jean Houry, hein. C'est vrai que ce qui est dit est absolument plein de bon sens. Et on pourrait peut-être encore ajouter un petit point qui est que on se demande même pourquoi des psychiatres se passent de la psychanalyse. C'est tellement plus confortable d'exercer la psychiatrie quand on se repère un petit peu dans ce qui arrive aux patients d'une certaine façon. C'est tellement plus, je dirais, facile d'essayer de travailler avec les mouvements institutionnels, justement, que, je dis justement parce que Oury, évidemment, est le père de la psychothérapie.
C'est le fondateur de la clinique de la Borde.
Oui. Et donc, bah, dans tous les mouvements institutionnels, on pourrait dire que la référence au travail qu'on a fait à l'intérieur d'une psychanalyse, c'est-à-dire la capacité finalement à conjuguer un peu ses émotions, ses affects avec ses ressentis et avec ses pensées, bah, c'est très très utile. Ça permet d'éviter nombreux conflits, ça permet d'éviter les rapports de force, ça permet de penser qu'on est là seulement pour faire valoir son idée, son opinion.
Alors on voit bien qu'il y a des histoires de chapelles qui d'ailleurs apparaissent justement sous votre plume, alors pas uniquement entre les différents courants de la psychiatrie, mais aussi par rapport au personnel médical. On voit que la hiérarchie n'est pas toujours celle qu'on croit finalement. Les infirmiers qui connaissent très bien le métier conseillent les internes sur la prescription ou les surveillent.
Oui, c'est ça. En fait, les internes, ils ont vraiment une place aussi assez particulière par rapport aux infirmiers parce que c'est un peu nos compagnons, nos amis. Donc effectivement, ils peuvent nous guider pendant... Au début, quand on connaît pas grand-chose.
La différence entre 50 ampoules et 50 gouttes.
Voilà, ce genre de problème. Et... En même temps, parfois, ça peut être une posture qui est un peu gênante pour l'interne parce qu'on est au quotidien avec les infirmiers. Et donc, dès qu'il y a un peu des conflits entre corps médical, corps infirmier, on est vraiment entre les deux avec les discours des deux et les infirmiers déversent un peu toute leur rancœur envers les médecins. Et ce qui est, en même temps, quand on est interne, on est jeune médecin, donc c'est toujours un peu difficile à entendre et difficile de se positionner par rapport à ça. C'est ce que je disais au début. Donc, quand je raconte le passage au pavillon des femmes qui font tout l'inventaire de tous les pires internes qu'elles ont eues. Et c'est aussi un peu une façon de mettre l'interne, enfin de prévenir l'interne sur tout ce qu'il faut pas faire s'il veut qu'on s'entende bien avec lui.
Alors sur la question de la psychanalyse, votre personnage de Lucille se fait psychanalyser par son chat, Sigmund. Donc il y a une sorte de mise en abîme comme ça, humoristique de la psychanalyse.
Ouais, c'était aussi une façon d'amener le sujet du syndrome de l'imposteur avec humour, d'où ça venait, donc de s'intéresser à l'histoire du personnage principal. Et aussi, en fait, la façon dont j'ai voulu traiter le personnage, j'ai un peu essayé tout du long de faire en sorte que il soit aussi lui-même un peu vu comme un patient. Il y a d'autres moments où je fais son analyse.
En tout cas, les frontières sont poreuses.
Voilà, c'est ça. Et j'ai trouvé que si j'en étais à faire un livre sur la psychiatrie et que parfois j'allais devoir parler des patients, il fallait que mon personnage soit traité de la même façon, donc sans concession, avec humour, que je puisse qu'il soit aussi mis dans la position de celui qui est analysé, dans une position de faiblesse, etc.
Mais d'ailleurs, ces frontières poreuses, vous les creusez comme une espèce d'expérience empathique du lecteur, puisque vous le mettez, le lecteur, dans cette situation d'identification à un schizophrène, en tout cas de faire l'expérience de devenir lui-même, de passer par le cheminement intérieur que pourrait vivre un schizophrène lorsqu'il commence à entendre une voix.
C'est ça, j'ai essayé de faire ça parce que pour moi, c'était vraiment important. En fait, quand j'ai fait ce semestre, c'est toute une population de personnes qu'on ne voit pas souvent, ce type de patients du MD. Et les gens me disaient souvent « Ah bon, mais après, ils ressortent, ils étaient complètement catastrophés. » Et en fait, de les côtoyer, c'était assez singulier de réaliser on vit un peu ce qu'ils vivent. Et j'ai accompagné des patients qui, justement, quand ils retombent de leur délire, en fait, c'est vraiment pour eux que c'est assez terrible. Et c'était une façon vraiment de développer l'empathie du lecteur, de le faire vivre un peu ce que moi, j'avais pu vivre au quotidien avec les patients, en montrant comment ça peut arriver, comme ça, de façon insidieuse, et que tout peut se retourner, toute la réalité peut se retourner, une fois aussi... qu'on a mis le médicament, que le délire retombe. Et aussi, c'était une façon de parler du pouvoir qu'on a...
En tant que prescripteur.
En tant que prescripteur. Et là, en plus, un pouvoir qui est donné là, en plus, vraiment par la loi, puisque c'est la loi qui dit que ce patient doit aller en UMD, doit être traité, et le médicament vient... Enfin, c'est assez vertigineux, quoi, de voir l'impact qu'on a sur un patient avec une prescription.
Alors, on voit aussi que cet univers est une sorte de bulle, puisque finalement, et les patients et le personnel médical est pris aussi dans cette institution qui est relativement cadrée, hein, notamment le pavillon 1, qui est très austère, et finalement, tout le monde se retrouve un peu dans cet isolement.
Ouais, ça c'est un peu, c'est pas spécifique de la psychiatrie, même si là, effectivement, en UMD, c'est un univers très fermé.
C'est radical.
Mais dans tout, enfin, c'est un peu les ambiances. Dans les hôpitaux, c'est souvent comme ça, c'est des milieux très fermés, avec le fait qu'il y ait des gardes, les gens vivent un peu sur place, ils ont leur quotidien, c'est vraiment la moitié de leur vie, et il y a ce côté aussi un peu perte de réalité, effectivement, parce que quand on est avec les patients, le patient arrive, il nous est présenté comme un patient, il arrive et il est en uniforme, on a eu... Les premiers contacts qu'on a eu avec lui, c'est son dossier. Donc, on a vu juste le jargon médical. Ensuite, on a vu les expertises, le compte rendu de la police. Donc, c'est quelque chose de complètement abstrait. Ensuite, il arrive, il est habillé en patient. On arrive en tant que
vous-même, vous êtes en psychiatre, mais voilà, sans lunettes et sans barbe, voilà, comme vous le dites vous-même.
Tout est là, en fait. Donc, c'est toujours un peu difficile de mettre les choses en perspective, de se dire quelle était la vie de cette personne avant. Et quand ce que j'expliquais, oui, effectivement, quand on rencontre les familles, c'est un peu le choc de... C'est du retour à la réalité, parce qu'il y a aussi cette ambiance dont je parle qui est un peu... je pense c'est une façon de se défendre du fait que ce soit un peu difficile, mais il y a beaucoup d'humour, pas forcément hyper léger, on peut se moquer, enfin dans les équipes parfois un peu des blagues sur les patients, parce que forcément comme c'est des patients délirants, ils font des choses incongrues, et ensuite quand on voit en fait la réalité de ce que vivent les familles des patients, c'est toujours un peu c'est là qu'on se rend compte qu'on est vraiment dans une bulle et qu'on vit dans notre monde avec un univers fermé, une équipe fermée, on est dans un entre-soi.
Alors, on voit aussi à travers le syndrome de l'imposteur que c'est un sujet éminemment politique, la psychiatrie, vous le dites vous aussi. Je vous propose d'écouter un discours que vous citez dans la bande dessinée, le discours d'Anthony de Nicolas Sarkozy en 2008.
Alors, je connais bien le principe. Nul ne peut être soigné sans son consentement. Faut-il encore que son consentement soit lucide? Vaste débat, me direz-vous. Mais enfin, moi, j'ai des obligations de résultat vis-à-vis de la société. Peut-on laisser des gens qui ont besoin d'être soignés sans être soignés, simplement pour la liberté qu'ils peuvent avoir de se détruire? C'est un vaste débat. Ayons ce débat. Moi, je pense que c'est de la non-assistance à personne en danger. Mais j'accepte bien volontiers qu'on discute. Mais discutons-en, vraiment. Allons jusqu'au bout de la discussion.
Alors, Jérôme Pellerin, évidemment, ce discours a beaucoup fait jaser. C'est là une des grandes questions évoquées, hein, la question de la liberté ou du danger aussi souvent mis en avant selon les époques de manière très très différente. Qu'est-ce que vous pensez de cette mise en lumière justement de ces questions à la fois dans cette discussion, puisque vous relevez ce discours-là dans votre bande dessinée, Jérôme Pellerin?
Oui, et puis Claire ajoute que finalement, la dangerosité des patients psychiatriques est toute relative, hein, que beaucoup de patients psychiatriques, en réalité, sont absolument pas plus dangereux que n'importe quel citoyen.
Plutôt moins d'ailleurs, hein, c'est ce que disent les chiffres.
Ils sont plus victimes d'agressions qu'ils n'en sont les auteurs.
Voilà. Et d'ailleurs, ça c'est un point intéressant, parce qu'en fait, c'est peut-être là que Sarkozy a seulement raison, si je puis dire. C'est-à-dire que, sans doute, est-ce que les patients ont effectivement eux-mêmes un peu envie de sécurité. Et que peut-être ça les rassure aussi, d'une certaine façon, de pouvoir être un peu protégés et de savoir, en fait, qu'à un moment donné, quand il y a quelque chose qui va trop loin, eh bien, il y a un monde qui peut effectivement les canaliser.
Alors, de manière plus large, la question de la fonction d'exclusion de la folie, question qui n'est pas neuve et que, effectivement, vous faites allusion aussi à Michel Foucault dans la bande dessinée, qui retrace, hein, tout ce qui repasse, puisque l'interne fait son apprentissage, il repasse aussi par toutes ces questions théorique et tous ces auteurs, à commencer par Foucault. Jérôme Pellerin, justement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette fonction-là et de ce discours politique qui s'est intensifié en même temps que les moyens de l'hôpital ont diminué, et donc il y a eu des tensions comme ça qui ont monté des deux côtés.
Je pense que c'est une des subtilités, justement, aussi, de la bande dessinée de Claire, de raconter quelque chose qui tourne autour de cette affaire-là, sans tout à fait le raconter. C'est-à-dire qu'au fond, ce que l'on a à voir, d'une certaine manière, c'est un jeune psychiatre qui oublie complètement le bon sens et les simples engagements et les simples effets, si je puis dire, de la relation, de la rencontre. C'est-à-dire que effectivement, arrivant dans le milieu de la psychiatrie, on se retrouve immédiatement avec l'idée qu'il va falloir être très technique, hein, qu'il va falloir organiser d'une certaine façon toutes sortes de choses qui vont permettre de faciliter la rencontre, alors même que, au fond, les gens qu'on voit arriver sont souvent des gens qui, avant tout, souffrent d'une immense solitude, qui commencent par être dans des situations où ils ont, justement, il leur manque complètement les capacités ou les outils pour être en relation avec quelqu'un, et ils sont tout à fait enchanté, si je puis dire, de rencontrer quelqu'un qui semble au moins les accueillir, qui a une certaine forme de bienveillance simplement à leur égard. Et au fond, on pourrait presque penser que sans doute est-ce que cette position de l'interne, elle est non seulement très valorisée d'une certaine façon dans votre bande dessinée, mais elle est aussi à valoriser encore davantage parce que effectivement, on a besoin, et alors là j'arrive à Foucault, on a besoin au fond de gens qui seraient ni des médecins ni du côté de la loi, mais qui seraient simplement des gens qui sont capables d'accueillir avec bienveillance, de dire oui, de dire alors, qu'est-ce qu'on pourrait se raconter, et de ne pas opposer, si je puis dire, évidemment, leur rationalité ou leur inquiétude à l'idée que quelque chose de dangereux pourrait être commis.
Alors, ce qui est amusant, justement, dans le syndrome de l'imposteur, c'est que de par ce syndrome de l'imposteur de l'interne, finalement, il a le sentiment de ne pas réussir à être le psychiatre qu'il devrait être, alors que le patient en face de lui, lui, a totalement l'impression d'être celui qu'il n'est pas. Et donc là, c'est deux délires qui se rencontrent. Claire Levin.
Ouais, c'était une façon un peu de faire une blague sur le sujet, de dédramatiser un peu le syndrome de l'imposteur. Mais effectivement, c'est pour ça que je dis que c'est aussi un peu décomplexant de commencer par l'UMD parce que il y avait, oui, les entretiens sont, on se sent pas forcément jugé, ils sont assez naturels et finalement les entretiens avec les patients se font assez facilement parce que la question de on sent bien que c'est pas le patient qui va nous juger sur ce qu'on va dire quand ils arrivent, en tout cas au début en UMD, et qu'ils sont très délirants et très désorganisés. Mais enfin, c'était plutôt histoire de faire une blague sur le sujet et d'amener le sujet du syndrome de l'imposteur.
On a le sentiment surtout que c'est un lieu de fiction extraordinaire. C'est pas complètement nouveau, mais l'UMD étant un peu plus radical que d'autres structures, on a le sentiment que la fiction est partout. Chez les infirmiers, dans les récits de la manière dont ça pouvait se passer avant, ouais. Avec tous les patients mis à la sieste et on fait un grand pique-nique. Ouais. La fiction, elle est un peu partout.
Oui, aussi bien dans les histoires des patients que dans les histoires que les infirmiers racontent ou les histoires que dans une vieille unité comme celle-là qui a plus de 50 ans, la fiction, effectivement, elle est partout parce qu'il y a tellement d'histoires.
Jérôme Pellerin, vous confirmez ?
Ah bah oui, bien sûr. On pourrait dire effectivement que c'est...
C'est pour ça, non, qu'on choisit la psychiatrie, non ?
Oui, parce qu'on aime les histoires, bien sûr, parce qu'on aime aussi quelque chose qui nous surprend, hein, des choses nouvelles, des choses qui nous échappent aussi, d'une certaine façon. Donc effectivement, je pense que la psychiatrie, évidemment, fait peur, hein, aux médecins qui ont été formés pendant des années et des années à la science et à la certitude.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus aujourd'hui. Claire Lemaine, je rappelle le titre de votre album graphique, c'est Le syndrome de l'imposteur. Il est publié aux éditions La Découverte.
France Culture, La Grande Table d'été, par Maëlys Bessery.
Et c'est l'heure de retrouver Jacques Nerson. Bonjour.
Bonjour Maëlys.
Alors, quelles nouvelles d'Avignon aujourd'hui ?
Bah écoutez, plutôt bonne. D'abord, le vent s'est remis à souffler, donc c'est assez agréable.
Alors, racontez-nous les spectacles dont vous voulez nous parler aujourd'hui.
Alors, je vais vous parler de trois spectacles. Mais je voulais d'abord commencer par rendre hommage au public du Festival d'Avignon, que je trouve vraiment très gentil, toujours bien disposé, favorable par principe, fondamentalement bienveillant. Je parle des vrais spectateurs, ceux qui paient leur place. Beaucoup d'enseignants parmi eux, la plupart venus de province. Et un prof de lettres implanté dans une petite ville d'Auvergne me disait hier n'avoir vu en tout et pour tout que deux spectacles durant l'année. Alors, d'où cet appétit de culture qui, il faut bien le dire, fait souvent défaut aux Parisiens repus et revenus de tout. Alors, mes conseils, ils vont être, ils concernent trois spectacles qui remplissent honnêtement leur fonction, c'est-à-dire dire un conte aux petits et aux grands enfants pour les faire rêver avant même que de dormir. Le premier s'appelle « Sous d'autres cieux ». C'est un texte de Kevin Kells tiré de l'Énéide de Virgile, mis en scène au Cloître des Carmes par Maël Poésie. Aucun effet spectaculaire, juste la narration partagée entre 8 comédiens de la longue errance d'Aîné, de sa fuite de Troie en feu avec son père et son fils, jusqu'en Italie où ses descendants fonderont Rome, puis régneront sur elle et son empire tentaculaire. L'attention prêtée au récit, la satisfaction que le public en retirait, était presque palpable l'autre soir. On sent bien quand les applaudissements sont de pure politesse ou quand il y entre de la reconnaissance. Et là, je vous promets, on remerciait les acteurs d'avoir redonné vie et jeunesse à cette légende vieille de 20 siècles. Un autre spectacle du IN procure semblable plaisir, c'est Péléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck, mis en scène à la Fabrica par Julie Duclos. Un décor d'Hélène Jourdan, inutilement compliqué, des interprètes pas toujours à la hauteur, mais la simplicité mystérieuse de la poésie de Maeterlinck, ici dépouillée de l'esthétique symboliste de la fin du XIXe siècle, opère malgré tout. Même si par moments la musique de Debussy, qui épouse l'œuvre si parfaitement, nous manque comme un membre amputé. Enfin, dernier conseil, il concerne une opérette destinée au jeune public, « L'amour vainqueur » d'Olivier Py, présenté au gymnase du lycée Mistral. Oui, au jeune public, mais pas seulement. D'ailleurs, quand j'y suis allé, il n'y avait presque pas d'enfants dans la salle, ce qui était aussi le cas pour Blanche-Neige. Autre spectacle au jeune public, auquel n'assistaient presque que des adultes. Second point commun entre les deux spectacles, on s'y efforce de dégenrer les contes. Celui de Grimm, Demoiselle Maline, dont est tiré l'amour vainqueur, comme celui de Charles Perrault. Ainsi, le rôle de Blanche-Neige est-il tenu par un homme et celui du prince par une femme. On incite les enfants à se délivrer du carcan des sexes. Cette ingérence dans l'éducation parentale sera-t-elle du goût de tous les parents? Certains la trouveront peut-être indiscrète. En tout cas, les spectateurs doivent être prévenus pour venir en connaissance de cause. Par ailleurs, le texte, la mise en scène et la musique d'Olivier Py sont très plaisants, ainsi que les acteurs, chanteurs et musiciens, en particulier Anthony Sikopoulos, qui veut être à la fois calife à la place du calife et qui, bien entendu, sera démasqué à la fin des fins quand le prince, à qui il a fait croire qu'il était laid, retirera lui aussi son masque. C'est joyeux, malin, bourré de talents et d'idées, s'adresser aux enfants réussis à beaucoup d'artistes, comme si ça les purifiait de leurs prétentions.
Merci beaucoup Jacques Nerson, c'était donc votre chronique en direct du Festival d'Avignon en partenariat avec l'Obs. Yeah. Et on entendait Asturias de Yusuna, extrait de son dernier album Immersion. Yusuna qui sera en concert le 13 juillet à Ploézal, le 19 au Paris Jazz Festival au Parc Floral, le 24 juillet au Festival de Musique de Chambre de Saint-Paul-de-Vence. Il est 13h30, bienvenue sur France Culture si vous nous rejoignez. C'est la deuxième partie de la Grande Table d'été avec pour invité l'architecte Philippe Chiambaretta. Créer un lieu capable à la fois de former des artistes, de les faire collaborer et de diffuser leur œuvre. Telle est l'idée qui anime le MOCO, le nouveau pôle culturel inauguré par la ville de Montpellier le 29 juin dernier. Une école, celle des Beaux-Arts, et deux espaces d'exposition composent l'ensemble, la Panacée et l'hôtel des collections. Un hôtel réhabilité par l'architecte Philippe Chiambaretta, qui est aujourd'hui l'invité de la Grande Table d'été. Bonjour.
Bonjour.
Alors cette histoire de MOCO, il faut nous raconter parce que c'est à la fois le pôle, c'est à la fois un ensemble, c'est en même temps plusieurs lieux. Donc d'abord le projet, Philippe Chiambaretta.
Alors le projet de l'hôtel des collections qui est donc là, installé dans l'ancien hôtel particulier dit hôtel de Montcalm, vient donc constituer le troisième élément de cette trinité que vous avez définie, qui est donc composé à la fois de l'école, de la Panacée et donc l'hôtel des collections. Donc cette idée-là était la proposition élaborée par Philippe Sorel, le maire de Montpellier, avec Nicolas Boriot, donc qui est le directeur de l'école, et nous avons accompagné et interprété, je dirais, cette idée en transformant l'hôtel de Montcalm. L'idée que nous avons proposé était de faire un petit peu de cet hôtel un peu le QG de la jeunesse et de la culture à Montpellier.
Alors, il faut déjà général. Le décrire, cet hôtel. C'est un hôtel du 19e siècle.
Effectivement, qui est du 19e, qui avait été construit au tout début du 19e siècle par un militaire. Et d'ailleurs, qui a gardé de cette origine un côté retour d'Empire et retour d'Égypte, avec des décors un peu baroques, un petit peu chargés, que l'on a conservé en grande partie, mais qui avait ensuite, dès 1850, été récupéré par l'armée, donc qui avait été un QG militaire pour le
donc
coup.
Donc hôtel particulier,
devenu un
lieu d'exposition,
voilà,
un QG artistique.
Un QG artistique avec donc comme un hôtel particulier, une partie cour et un côté jardin. La ville de Montpellier s'est développée autour, on est très près de la gare Saint-Roch. Et le bâtiment devait déjà être transformé sous Fraîche en musée France-Algérie. Donc il avait déjà été en partie transformé et le nouveau maire a arrêté ce projet-là et a voulu l'orienter vers un musée d'art contemporain. Et donc nous avons quelque part détourné le vol pour le faire atterrir sur une autre piste.
Alors avant de reprendre en détail ce qui va se passer pour l'hôtel des collections, l'idée de ces trois pôles, c'est à la fois d'avoir une sorte de fabrique complète de l'œuvre artistique et des artistes, c'est-à-dire à la fois la formation, l'exposition, mais aussi des lieux, alors justement, de rencontres, de collaborations.
Oui, c'est un peu un anti-modèle. L'idée qui était intéressante avec cette proposition pour Montpellier, c'est d'avoir autour de l'art contemporain une approche un peu à l'opposé du système classique assez vertical de la grande fondation ou du qui se développe d'ailleurs à Arles en ce moment, d'avoir un ovni qui atterrit dans la ville et qui d'un seul coup devient un lieu assez élitiste et pas du tout ancré dans le quotidien des habitants. Donc là, cette volonté, c'était effectivement de faire plutôt un écosystème artistique pour les jeunes artistes et qui est une proposition à la fois de faire venir l'art international à Montpellier.
Parce qu'alors il y a une spécificité, c'est qu'on vient exposer essentiellement des collections.
Voilà, donc l'hôtel des collections, comme son nom l'indique, est un hôtel au sens où c'est un hôtel particulier, mais aussi un hôtel, c'est-à-dire qui accueille des visiteurs, en l'occurrence des collections privées ou publiques du monde entier. Et donc, on a voulu que ce soit un lieu accueillant en termes déjà de muséographique, soit des conditions parfaites pour pouvoir accueillir des collections du monde entier, et que ce soit finalement le monde qui vienne à Montpellier pour les habitants, mais aussi ces jeunes artistes qui vont pouvoir, dans ce triptyque, être exposés à l'art d'ailleurs.
Alors quand on arrive, il y a aussi un jardin qui a été conçu aussi par un artiste, parce que c'est l'idée aussi que ce soit les artistes qui fassent le lieu artistique, et c'est Bertrand Lavier qui était, enfin, qui a justement le plasticien qui a travaillé à ce jardin.
Absolument, c'était notre la proposition que l'on a faite en tant qu'architecte, était de dire finalement essayons pour une fois de nous effacer, enfin de ne pas essayer de faire un geste architectural. On était vraiment dans un accompagnement de cette démarche, donc on est resté dans l'esprit et on a économisé au maximum sur tous les travaux.
Économiser au sens propre du terme, hein, économiser parce que les moyens n'étaient pas les très moyens conséquents.
N'étaient pas conséquents, donc on a poussé dans cette logique de sobriété et de frugalité, avec l'idée que on pourrait produire avec cette économie sur les travaux des œuvres spécifiques qui resteraient permanentes dans le musée et notamment le jardin.
Alors, on va parler de ce jardin et des artistes autour. Un jardin, on dit magique, poétique, qu'est-ce que ça veut dire? Inspiré de la cartographie?
Oui, alors la proposition de Bertrand Lavier, à qui on a proposé de faire cette intervention, était de réaliser un jardin des cinq continents, puisque on va accueillir dans des collections du monde entier, donc au travers d'un dessin de cinq strates parallèle et en diagonale, on va y découvrir des plantes venues de chacun de ces continents et pouvoir se promener dans le jardin et s'y asseoir.
Alors, c'est vrai que vous disiez pas de geste architectural. Alors, on va s'interroger justement sur cette notion de geste. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire ne pas simplement construire? Je vous propose d'écouter Renzo Piano. C'était sur France Culture et c'était le 4 février 2016.
Un bâtiment est depuis toujours, même depuis la première maison, le premier abri, le plus simple, le plus humble, ça a toujours été pas seulement un bâti, mais c'était aussi un symbole, une expression de l'identité des gens qui habitent. Et l'architecture, c'est une des arts de raconter des histoires. Et comme il faut bien commencer quelque part, moi j'ai commencé par ça. Ça m'a resté dans la peau, bâtir, l'art de bâtir. Mais après, évidemment, comme on n'est pas fou, on rajoute d'autres choses. On apprend que l'architecture, c'est là, c'est une art. C'est une art de frontière, dans quelque façon. C'est une art dans laquelle il faut comprendre les gens, il faut écouter les gens, pas nécessairement obéir aux gens, mais comprendre. Il faut être des humanistes, il faut être des climatologues, il faut être des géographes, il faut être des topographes, il faut être tout ça. Et quelle part, on apprend à un certain âge qu'il faut aussi être, c'est un mot difficile à prononcer, mais il faut être un petit peu poète. Puisque si on ne met pas la poésie, comme d'ailleurs dans d'autres choses de la vie, hein, on ne fait pas du journalisme sans une certaine poésie. On ne fait pas autre chose sans une certaine poésie. Eh bien, si on ne met pas la poésie, alors là, il y a quelque chose qui manque.
Philippe Chiambaretta, vous parlez d'un art total, hein. Il faut être même poète pour être architecte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire? L'art de bâtir, ça ne suffit pas de bâtir, il y a tout le reste, il faut écouter.
Absolument, alors, c'est toujours une parole merveilleuse de Renzo Piano qui est un grand architecte et une belle pensée, une belle personne. Bien sûr que c'est ce qui est d'ailleurs fascinant dans ce métier de l'architecture, qu'on comprend assez mal en général, enfin, qu'on rattache au bâtiment, il y a l'art de bâtir, mais c'est en fait ce métier qui nous oblige à être total, effectivement, et d'aller jusqu'à la poésie, puisqu'en fait c'est une partie essentielle de l'humanité, de l'homme. Mais j'aimerais insister sur un aspect dont parle Renzo Piano dans cette phrase, mais être climatologue, c'est vrai qu'on est à un moment où de bascule de l'humanité, et où l'architecture aussi bascule avec, dans le fait que notre rapport au monde et notre regard sur l'humain, le vivant, le non-vivant, est en train de changer en profondeur, doit changer en profondeur. Et donc ça re-questionne complètement la façon dont on va regarder l'objet architectural, la ville.
Alors climatologue, géographe, donc là on parlait justement de cartographie des jardins, pas simplement en termes de concepts d'art contemporain ou d'idées symboliques, mais aussi concrètement, qu'est-ce qu'on fait justement de ces questions écologiques, de ces questions climatiques. Ce bâtiment, l'hôtel des collections, c'est un bâtiment qui a été réhabilité, donc c'est pas le geste de construire, c'est celui de réhabiliter.
Oui, alors ça rejoint une préoccupation ou un enjeu actuellement effectivement de refaire la ville sur la ville, de travailler avec le déjà là, de recycler l'existant. Donc, dans ce cas-là, moi je trouve que c'est une pratique assez formidable. D'ailleurs, on travaille beaucoup sur des bâtiments existants, on fait des bâtiments neufs également, mais il y a une rencontre avec le déjà là, avec l'histoire qui est formidable. Et dans le cas de l'hôtel de Montcalm, on a essayé de limiter la réfection au minimum. On a dû néanmoins faire une pièce nouvelle qui était un white cube qu'on a rajouté sur l'hôtel de Montcalm.
Ah, c'est quoi le white cube?
Le white cube étant un peu l'expression consacrée dans les musées pour avoir une grande salle totalement neutre dans laquelle on va pouvoir exposer toute forme d'installation, de tableaux, de sculptures. Enfin, aujourd'hui, les œuvres d'art prennent des formats très différents. Donc on doit accueillir dans des conditions parfaites, donc ce white cube, mais l'extérieur pose question, c'est-à-dire quelle est la forme extérieure que l'on donne à ce cube. Bon, on a fait un cube de lumière qui sera comme une boîte lumineuse, qui une veilleuse dans la ville, qui sera un élément poétique justement, qui simplement avec une teinte qui très doucement va changer entre le coucher du jour.
On l'a vu un peu violet, hein, c'est ça, ce white cube. Quelle teinte est-ce qu'il peut prendre, Philippe Cambaretta?
On ira d'un bleu sombre vert en rouge, mais tout ça très 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 lentement, de sorte que en fait quand on passera devant le moco, si le moco est rouge, on se dira qu'il est très tard.
Ça devient l'horloge aussi de la ville.
Une sorte d'horloge, une sorte de veilleuse, oui.
En espérant qu'il ne fonctionne à l'énergie solaire.
En tout cas, il fonctionne avec des LED qui sont à très faible consommation.
Alors, cette conception justement aussi de l'espace, vous dites, on a gardé beaucoup de cet hôtel particulier, de cet hôtel Montcalm. Qu'est-ce que vous avez donc fait à l'intérieur? Est-ce que réhabiliter, ça veut dire dégager les espaces, en faire des espaces ouverts, puisque l'idée, c'est de pouvoir accueillir n'importe quel type de collection?
Alors, il y avait une partie qui est une partie muséale dans laquelle effectivement les espaces dédiés à l'exposition. Il y a trois grandes salles, trois grands white cubes qui sont qui permettent un circuit intéressant de et plusieurs circuits d'ailleurs qui pourront s'adapter aux différentes expositions. Donc là, c'était des travaux, je dirais, de mise aux normes et de création de conditions climatiques parfaites pour des œuvres. Mais un élément important que l'on a ajouté, qui n'était pas prévu au programme initialement, et je pense qui était un ajout intéressant, on a rajouté un restaurant et une terrasse qui donne dans le jardin, avec cette idée que si c'est un lieu de vie, en particulier dans le sud, en particulier dans une ville chaude, cette terrasse, ce restaurant seront le lieu de vie, ce QG dont on parle, pour venir y séjourner tout au long de la journée, qu'on ait vu ou non l'exposition.
Donc c'est un décloisonnement aussi du musée?
C'est un décloisonnement du musée, c'est pas très original.
Ça ouvre à d'autres types de visiteurs?
Oui, c'est-à-dire que c'est une collection. Enfin, on est près de la gare, on est sur le chemin du tram. Donc, il y a cette idée, c'est joli d'ailleurs de Sorel, de dire que finalement, il y a toutes les lieux artistiques, les lieux de culture sont le long de la ligne du tram, un petit peu comme le long du comme à Venise, le long du Rialto, et donc ce sera une escale dans laquelle, une étape dans laquelle, même si on a déjà vu l'exposition, on pourra venir et revenir au MOCO, à l'hôtel des collections, pour se renseigner sur ce qui se passe à Montpellier, dans la région de Montpellier, sur l'ensemble des offres culturelles en cours.
En se disant que comme les œuvres sont aussi dans le jardin à l'extérieur, elles iront peut-être jusqu'à attirer le visiteur jusqu'à l'intérieur. Il y a l'idée de pouvoir aussi mettre en relation des artistes, travailler sur un vaste réseau et de justement cette particularité d'exposer des collections et non plus simplement des artistes.
Oui,
c'est des expériences particulières. La collection, c'est une expérience de choix aussi.
Oui, c'est déjà de proposer finalement au travers d'un collectionneur qui lui-même a fait un choix passionnel de collectionner, d'avoir déjà un regard presque curatorial mais amoureux de quelqu'un qui a acheté ses œuvres, qui vit avec. Donc la première exposition qui est présentée pour l'inauguration du MoCo, celle d'un collectionneur japonais, je ne voudrais pas écorcer son nom, c'est Ishigawa, mais si je me souviens bien.
Absolument. Distance intime.
Distance intime, effectivement. Donc présente une quarantaine d'œuvres de sa collection personnelle et avec des artistes d'ailleurs qui sont devenus un peu des classiques de l'art contemporain, des artistes comme Mike Kelly ou Pierre Huyghe, et qui d'ailleurs pour beaucoup en rapport avec aussi le travail critique qu'avait Nicolas Bourriaud avec tout son travail sur l'esthétique relationnelle. Donc,
ça mériterait qu'on s'y arrête deux secondes, l'esthétique relationnelle. Vous pouvez nous en dire quelques mots sous-jacente à tout ce projet aussi.
Qui est sous-jacente à ce projet, en effet, qui est donc une théorie qu'avait développée Nicolas Bourriaud dans les années 90, qui a pas mal marqué l'histoire de l'art contemporain sur l'art comme élément de mise en relation des êtres plus que production d'objets. Et avec qui a conduit d'ailleurs, je trouve, dans cette exposition, à une pièce assez remarquable que vous connaissez certainement, celle de Pierre Huyghe, qui est un des acteurs essentiels de cette idée d'esthétique relationnelle, avec une pièce qui a déjà été exposée d'ailleurs à Paris, je crois, à la Fondation Vuitton. Et l'idée qui est intéressante de Pierre Huyghe est d'ailleurs d'échapper à l'idée de l'intentionnalité de faire une œuvre pour quelqu'un, pour un spectateur, pour un public. Et là, en fait, à un moment donné, de s'effacer comme artiste.
Mais de s'inscrire dans un réseau.
Et de s'inscrire dans un réseau, mais même de laisser l'œuvre se faire par la nature. Vous vous souvenez, à Pompidou, il avait exposé donc plusieurs pièces, dont avec ce chien qui avait pas des abeilles, des écosystèmes dans lesquels il laisse développer des phénomènes naturels qui deviennent œuvres. Et c'est une extension assez logique de ce déplacement, je pense, intéressant aujourd'hui à la fois dans l'art contemporain, dans l'art, mais que j'essaie modestement aussi de mettre en œuvre dans l'architecture, c'est-à-dire on est à ce moment de bascule dans lequel on doit désanthropiser le regard que l'on a sur les choses et même sur la ville et sur l'architecture, c'est-à-dire commencer à comprendre, même si c'est très difficile, complexe, à construire non seulement pour les humains, mais aussi pour les non-humains et ne plus regarder le bâtiment comme un objet solitaire, comme une chose, mais comme un élément organique dans un métabolisme. Puisqu'on voit aujourd'hui que ce qui se produit...
C'est une idée quasiment végétale, hein. C'est l'idée en tout cas d'un bâtiment qui est aussi vivant que ce qui l'entoure.
Absolument. Hein, ce qu'on constate avec ce basculement aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, c'est qu'en fait, on voit apparaître comme majeur l'externalité de nos actions. C'est-à-dire qu'avant, on regardait les phénomènes en soi, on regardait au travers de toutes les connaissances que l'on avait, comment... les lois mécaniques ou biologiques ou physiques. Et aujourd'hui, on constate avec ce phénomène d'anthropocène que ce sont les externalités qui prennent le pas et qu'on ne sait plus aujourd'hui mesurer ou agir sur ces dérèglements que l'on a produits. Et donc, c'est au travers de l'architecture, on est un petit peu en pole position sur ces combats.
Une architecture qui se corrige aussi au fur et à mesure.
Une architecture
qui évolutive,
qui évolue, qui doit d'un seul coup prendre en compte la dimension du temps, qui était jusqu'à présent un peu exclue. On construisait l'espace et on se souciait assez peu de l'avenir du bâtiment, ce qu'il allait devenir dans le temps. Aujourd'hui, on doit penser aux 5 ans de conception et de construction, mais aussi aux 50 ans qui viennent derrière. Donc c'est toute une nouvelle approche aux choses qui est induite.
Alors on entend cette collaboration qui a eu aussi entre les architectes et les artistes contemporains qui nourrissent ce lieu. Vous avez plusieurs fois nommé Pierre Huyghe, alors on va vous le faire entendre. C'était sur France Culture en mars 2006.
Si l'artiste est censé représenter, en tous les cas, penser les modes de représentation du monde, et en tous les cas les ouvrir, les changer, les questionner, c'est vrai que il se replie, puisqu'il ne, peut-être qu'il n'accède plus au public auquel il accédait au préalable, il n'accède plus à ce public. Et donc, en fait, il se replie dans un particularisme qui est dangereux, qui est un repli, donc qui est quelque chose qui ne s'ouvre pas. Et dans ce sens-là, moi, je suis opposé plutôt à ça. Donc, d'une certaine manière, oui, je cherche à ouvrir ce format qui est ce qu'on appelle l'art. J'essaie de l'ouvrir à d'autres formats, à d'autres champs.
Alors, justement, l'ouvrir à d'autres champs, les faire collaborer, d'autant plus que là, c'est l'architecte qui travaille au service des artistes qui vont exposer, et vice-versa, qui sont même partie prenante du projet, du jardin et autres. Philippe Chiambaretta.
Oui, enfin, ces formats dont parle Pierre Wyg, en fait, aujourd'hui, on a tous envie de se libérer des formats, et la limite entre du coup, les dimensions d'architecture ou la position de l'artiste sont aujourd'hui les questions que l'on se pose, même sur notre statut, sur quelle est la position que l'on a, quelle est la statue de l'artiste, la stature de l'architecte. Je crois qu'on a, nous, l'habitude assez fréquemment d'inviter des artistes à collaborer avec nous, non pas à venir poser un objet dans une architecture, mais de participer à l'écriture d'une histoire. Par exemple, ce jardin, on a imaginé, nous, l'idée de le modifier, de le rendre magique, alors qu'il n'était pas dans le programme de départ. Donc, ces économies dont je parlais tout à l'heure nous ont permis de refaire ce jardin. Et pour,
d'ailleurs, qui a été fait en collaboration avec un paysagiste aussi.
Alors, oui. Oui, puisque, donc, en fait, on a choisi Bertrand Lavier parce qu'il avait fait dans sa jeunesse une formation de botaniste, bon, naturellement qu'il a assez peu utilisé par la suite, mais il a trouvé l'idée géniale de pouvoir travailler sur un jardin. Il s'est fait aider, donc il a appelé Gilles Clément pour lui donner un coup de main, et des jeunes paysagistes basés à Montpellier qui travaillent beaucoup avec Gilles Clément, donc le Coloco, qui l'ont aidé à transformer une idée en jardin.
Alors, un jardin qui est une œuvre évolutive, puisqu'elle évolue au rythme, justement, des végétaux qui s'y trouvent. Donc, le côté magique, il vient aussi de là, de créer un lieu vivant.
De créer un lieu vivant, oui. C'est ce rapprochement. D'ailleurs, c'était pour ça que moi, j'étais absolument décidé à agir aussi sur le jardin, car aujourd'hui, et dans la plupart de nos projets, on utilise le vivant comme une des composantes de l'architecture, au travers de terrasses, de jardins, mais non pas juste comme de la décoration, mais vraiment cette idée, pour accompagner cette idée que le bâtiment est une chose vivante, que on est aujourd'hui très sensible à la biophilie. Je crois que beaucoup d'études récentes montrent à quel point on ressent l'importance d'une présence de la nature pour notre bien-être. Et donc, c'était absurde de ne pas le faire, enfin, que l'arrivée dans le Moco ne soit pas par ce jardin magique, un jardin artistique.
Et il va y avoir une fontaine aussi
dans absolument, je crois que vous avez...
Au mois d'octobre.
Elle n'est pas encore là, mais Bertrand Lavier donc, va installer au mois d'octobre une fontaine qui sera à l'entrée de ce jardin et qui fera... apportera ce bruit aussi d'eau qui est très important. On a inauguré le bâtiment le jour le plus chaud de l'année, qui faisait 46 degrés. pas mal d'enfants se sont baignés déjà dans la fontaine qui est déjà là, mais il n'y a pas l'installation que va faire Bertrand.
Alors, au-delà des questions architecturales, la construction de ce pôle, en fédérant justement à la fois la formation, mais aussi l'exposition et la mise en relation des artistes, est-ce que c'est aussi l'idée de créer justement des pôles très internationaux, avec une grande circulation des résidences, puisque là, c'est les collectionneurs sont mis en avant, et les collections. Mais il y a bien la question des artistes quand même, qu'il faut former, qu'il faut faire travailler, qu'il faut accueillir, mettre en relation.
Je crois qu'au travers de ce projet, c'est un petit peu l'accomplissement aussi de tout ce qu'a... Là, je rends hommage à Nicolas, qui est Bourriaud, qui est quand même
le directeur
et qui a imaginé cette approche un peu en trinité. Et effectivement, donc l'école des Beaux-Arts qui accueille des étudiants et des élèves en art contemporain, mais qui vont pouvoir trouver dans cette scène et la richesse de la proposition à Montpellier une façon de pouvoir aussi s'ancrer dans ce territoire et pas immédiatement partir, ce qui aujourd'hui était quand même ce qui était constaté depuis un certain nombre d'années, la nécessité de s'exiler.
Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi exposer de très jeunes artistes, pas encore tout à fait reconnus ou connus sur la scène internationale ou ailleurs?
Oui, enfin,
il y a des proximités qui sont négociées comme ça.
Il faut qu'il y ait tout un écosystème qui se développe autour du MoCo, de galeries, qui vont permettre à ces artistes qui vont naître à Montpellier et se développer là, de trouver effectivement des scènes d'exposition, que ce soit à la Panacée, que ce soit par exemple dans le MoCo, on a proposé que tout le mobilier du... C'est un tout petit exemple, mais tout le mobilier du MoCo sera modulable et sera l'objet d'une intervention d'artistes de la ville qui pourront régulièrement intervenir sur ces tables, sur ces chaises pour le rendre vraiment les adapter à leur création. Et je crois que l'idée derrière cette... la question qui est posée, c'est de l'avenir de villes comme Montpellier dans le système français où l'on a effectivement Paris et un peu le désert, de contribuer à...
Il y a d'autres musées quand même, mais il y a une grande centralisation encore très mais présente.
Cette idée de vouloir faire un petit peu de Montpellier l'équivalent d'un Los Angeles à la française.
Carrément Los Angeles, on dit qu'il y a un effet plutôt Bilbao sur le plan économique à Montpellier. Une attraction particulière qui serait aussi liée à ces musées. En tout cas, le MoCo pourrait en faire partie, comme le Guggenheim à Bilbao.
Je pense que c'est pas tout à fait le modèle, en tout cas, que l'on avait en tête. Bilbao, me semble-t-il, un schéma qui a eu beaucoup de succès, qui s'est beaucoup dupliqué.
De par l'architecture aussi.
De par l'architecture aussi, effectivement. Mais justement, on a tenté dans ce projet-là que la proposition soit un peu plus complexe que l'objet architectural. Bon, il y a ce cube dont je parlais, mais on est très loin du geste spectaculaire et du budget spectaculaire.
De Franck Guéry.
De Franck Guéry à Bilbao.
Merci beaucoup Philippe Chiambaretta. Chers auditeurs, vous pouvez aller voir le MoCo, l'hôtel des collections La Panacée à Montpellier et y admirer l'exposition inaugurale Distance Intime qui réunit les œuvres de la collection Ishikawa jusqu'au 29 septembre. En attendant, je vous donne rendez-vous demain à 12h45 pour une nouvelle grande table d'été et pour parler des arbres à travers l'exposition que leur consacre la Fondation Cartier. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Pascaline Bonnet, Alexandra Brouillet, Chouchane Djergaillan, Lou Le Joly et Julien Rosa. À la réalisation, Marie Placé. À la technique, Anthony Thomasson. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.